pour la conclusion de cette journée, toujours trop courte, la journée, pas la conclusion, moi j'ai prévu de me taire et en fait de proposer, de donner la parole à plusieurs personnes que j'ai invitées ce matin pour pas qu'elles soient prises au dépourvu au dernier moment. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres qui sont là ne peuvent pas aussi prendre la parole. Donc l'idée, c'est un peu pour différentes personnes qui ont différents statuts dans les LEA, une personne qui est proviseur, une personne qui est correspondant IFE, correspondant LEA, membre du LEA, et plusieurs statuts, des enseignants, des chercheurs, des personnels de pilotage, de donner peut-être ce qu'elles retiennent de la journée ou la question ou la piste qu'elles ont envie de travailler en partant d'ici, ou qu'elles voudraient qu'il soit travaillé par le réseau. Il peut y avoir aussi des remarques sur la façon dont s'est passée la journée et dont on pourrait améliorer ce type d'organisation pour rendre ce type de journée plus fructueuse encore. Je pense qu'au niveau des échanges, il y a eu beaucoup d'échanges. Après, j'ai entendu beaucoup de frustration aussi parce qu'on n'arrête pas de stopper les échanges à certains moments pour passer sur d'autres. Voilà. Donc, peut-être Magdalena, je ne te vois plus, mais...
Je suis là.
Ah, parce que tu es toute bonne, tu veux venir hein, ce serait mieux.
Alors, Magdalena Solabarrieta, je suis la principale du collège Federico Garcia Lorca, qui est situé dans le 93 à Saint-Denis.
Zuhir Elamri, correspondant Léa, professeur de mathématiques.
Et enseignant référent de l'établissement, et c'est important. Garcia Lorca est un établissement REP+. Donc nous sommes dans l'innovation expérimentale de la préfiguration de l'éducation prioritaire. Le Léa est arrivé avant REP+. Et il a cette année alimenté notre REPLUS. Nous avons un Léa qui est un peu particulier. Je n'ai eu de cesse de le dire toute l'après-midi. Je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est un Léa qui a pour objet les pratiques enseignantes des nouveaux arrivants dans les établissements scolaires. Donc notre Léa concerne tous les nouveaux personnels enseignants nommés dans l'établissement au 1er septembre 2014, avec une spécificité cette année, puisque j'ai obligé les enseignants à participer à la première partie de l'année du Léa, sous la coordination de Zouir et de Mélanie Horry et de Hervé Collery, qui sont deux enseignants en lettres et en physique, en sciences physiques. L'idée étant de dire aux enseignants, le Léa est un objet dont vous devez vous saisir pour pouvoir entrer dans le métier, non pas de façon générale et générique, mais à Garcia Lorca. Moi, il y a quelque chose, vraiment cet après-midi, que j'ai retenu, et sur ce qui m'a fait progresser cet après-midi, c'est l'absolue nécessité que nous avons maintenant, que nous avons obtenu notre vitesse de croisière, c'est de trouver le moyen, comme l'a fait mon collègue sur Marseille, de rayonner sur ce Léa. Ce Léa, aujourd'hui, c'est le collège Garcia Lorca. Nous, à travers le REP+, nous avons proposé à certains PE du secteur de venir à quelques séances du Léa prochainement. Donc nous sommes en train d'essayer d'amener les enseignants du premier degré à venir. Ça va être un long combat et il n'y en aura peut-être qu'un, mais ce n'est pas grave. On a dit qu'on accepterait une seule personne. Il faut maintenant, et c'est là où cet après-midi les échanges m'ont beaucoup apporté, qu'on trouve un moyen... tous ces outils, et je vais laisser Zouir expliquer comment fonctionne ce Léa, puisque la spécificité de ce Léa, c'est qu'en tant que chef d'établissement, je n'ai pas le droit d'assister aux séances filmées avec Luc Ria, qui est notre chercheur. C'est un deal avec l'équipe. Je viens, je dis bonjour, je salue tout le monde, j'amène le café, et après, la porte se ferme. Et je le dis pas de façon anecdotique puisque c'est la réalité. La porte se ferme et je suis priée de retourner dans mon bureau, répondre au téléphone, ouvrir la grille, enfin toutes les choses que nous faisons en tant que chef d'établissement de façon quotidienne. Et y a un vrai enjeu avec les et c'est un vrai. Alors c'est très important parce que l'un des supports de ce Léa, c'est le film. C'est l'auto-évaluation ou l'évaluation d'un de ses pairs à travers les films que fait Luc ou que font les collègues quand ils sont présents dans les salles. Et je n'ai jamais eu accès à ces films et c'est un véritable deal. Alors je vous avoue que ça me... Ça me titille, un jour ou l'autre, je vais bien réussir, hein. Je leur ai dit quand même, un jour j'aurai le droit, mais bon, pour l'instant j'ai réussi à... Non, j'ai pas le code Dropbox, je sais, mais j'ai failli l'avoir avant-hier, mais bon, il y a quelqu'un qui a failli me le donner, j'ai dit, oups, bon, d'accord, allez, non. Avec une difficulté, alors il y a un truc qui a été amusant cette année, c'est qu'en début d'année, quand j'ai vendu... Donc on a accueilli les nouveaux enseignants avec un protocole très particulier dans le cadre de REP+. L'accueil des nouveaux enseignants est l'un des deux axes prioritaires sur... il fallait qu'on détermine deux axes pour le ministère pour évaluer l'opération REP+. Et l'accueil des nouveaux enseignants, dont le Léa fait partie, puisqu'il y a autre chose autour, cet accueil doit être évalué là par mes soins pour le ministère en janvier. Et quand j'ai vendu ça le jour de la pré-rentrée à 8h du matin aux 25 pauvres jeunes enseignantes dont la moyenne d'âge devait tourner autour de 22 ans,
ils ont
en leur expliquant que ça allait être comme ça et puis pas autrement, j'ai aussi dit que Luc me filmait régulièrement, ce qui est vrai. C'est un exercice absolument horrible pour moi parce que je ne supporte pas d'être filmée, je ne supporte pas d'être vue. Et alors le grand jeu de Luc, c'est donc de me filmer et derrière de faire la même chose qu'il fait avec les enseignants. Et on leur a dit, et c'est marrant parce que certains sont revenus me voir quelques temps après en disant « Mais après tout, si vous le faites, allez, je veux bien essayer. » Et on en a quand même... Enfin moi, j'en ai eu 2-3 qui sont venus un jour autour d'un café me dire « Bon, alors si c'est vrai que Luc vous a déjà filmé, alors on a un deal. Hein. Jamais personne ne verra les films que Luc fait de moi. Et moi, je verrai jamais les leurs. » Peut-être que tu peux expliquer comment ça se passe dans la vraie vie.
Alors, on essaie donc de créer un collectif d'enseignants qui vise à encourager les enseignants arrivants, les enseignants nouveaux, entrant dans le collège, à analyser leurs pratiques individuelles. Alors, soit on est sur leur pratique individuelle, soit on travaille sur des objets qu'on a définis collectivement. Par exemple, entrée en classe, mafia anti-travail, gestion des conflits. Tout ça, on travaille sur des séances vidéo de leur père, donc de leur de la classe d'à côté, de leurs profs, ceux qui travaillent dans la même équipe, dans la même matière ou dans une autre équipe. Donc on travaille vraiment via la vidéo formation. Pour cela... comment on a essayé de désinhiber les enseignants qui viennent d'arriver et qui sont confrontés, et c'est normal, à l'image d'eux-mêmes. On a créé cette année un compte Dropbox où on a une dizaine de séances filmées de leur père. Et les collègues enseignants nouveaux accèdent à ce compte Dropbox. On travaille à peu près une fois tous les mois ou tous les mois et demi avec l'équipe de chercheurs Luc Ria et Valérie Lucie Borer. On travaille en séance collective. On fait des autoconfrontations, des confrontations, des alloconfrontations, et les enseignants visualisent leurs séances et réfléchissent sur leur posture professionnelle, sur leurs gestes professionnels. Ils sont confrontés à leurs gestes professionnels. Et ça semble être en tout cas bénéfique aujourd'hui. Et ce qu'on cherche en fait, c'est que l'enseignant qui arrive et qui est nouveau, on veut qu'il se sente bien dans le collège, d'une part, et qu'il évolue le plus vite possible. On sait qu'il va évoluer, mais... On souhaite qu'il évolue le plus vite possible et qu'il soit le moins en souffrance dans un collège avec des gamins qui peuvent être difficiles et des classes qui peuvent être pas faciles à gérer.
Et donc l'étape suivante maintenant, c'est à partir de toutes ces analyses, à partir de tout ce travail, comment créer des outils sans faire croire à qui que ce soit que ça soit un outil qui est absolument plaquable n'importe où, dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui, avec n'importe quel gamin, parce que c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on vit avec de l'humain, mais qu'on a quand même un certain nombre de modalités de fonctionnement qui peuvent nous permettre de ne pas se mettre en danger quand on rentre dans ce type de salle de classe et qui peuvent nous permettre d'asseoir une autorité bienveillante qui va permettre d'enseigner à des élèves qui sont dans une situation d'hétérogénéité extrême. Et c'est là, pour le coup, que moi, j'ai entendu 2-3 pistes qui va falloir qu'on creuse, puisque maintenant, il va falloir qu'on commence à creuser, à fabriquer N plus 3, du coup.
Pérenniser le dispositif.
Pérenniser le dispositif. juste un chiffre pour terminer. La semaine prochaine, dans 15 jours, Luc revient. Et donc là, voilà, le SMIC est terminé. Donc ceux qui ne veulent plus venir au Léa ne sont plus dans le cadre du SMIC. Donc à partir de là, je ne vérifie... Alors, pour information, il n'y a jamais eu de feuille d'émargement. Hein. Il n'y a jamais eu de feuille d'émargement. Il n'y a pas de feuille d'émargement qui tourne chez nous.
Et puis là, on part sur 17 voilà. enseignants sur 21.
Et là, il y a 17 enseignants sur 21 qui vont assister au Léa pour le reste de l'année, alors que là, ils sont hors configuration de l'obligation du sacro-saint chef d'établissement et de son mauvais caractère. Donc c'est bien qu'ils y ont trouvé une plus-value personnelle et professionnelle et qu'ils ont l'impression que ça va leur permettre d'avancer.
Un point qui me vient là tout de suite. Le Léa a permis une chose particulière, c'est qu'on a ouvert aussi un parcours d'observation des pratiques. Donc tous les enseignants peuvent aller observer d'autres enseignants. Et pour y être dans ce collège depuis 15 ans, les portes ont souvent été verrouillées. Et il y a très peu de portes qui restent ouvertes. Et cette année, toutes les portes ont été ouvertes. Même avec les enseignants qu'on peut dire récalcitrants, toutes les portes se sont ouvertes et tout le monde a été observé. Tout le monde a été observé. On a eu en un mois 82 observations. De cours, de séances entières.
Des observations croisées, en fait. Un enseignant qui va dans la
classe. Qui va dans la classe
de façon tout à fait volontaire, à partir d'un tableau qui est collé sur le mur où chacun s'inscrit quand il veut, où il veut.
Et c'était pas si évident.
Merci beaucoup. Je suis désolée, je vais encore être frustrante, mais comme on va demander à plusieurs Léa de faire une réaction.
Non, mais je suis OK.
Merci beaucoup. Oui, tu veux me dire?
Voilà. Donc, effectivement, moi, je représente donc le Léa Saint-Malo, qui travaille sur la mise en œuvre du dispositif plus de maîtres que de classes. Donc, nous sommes deux enseignants-chercheurs, donc deux correspondants IFE, Marie Toulek Théry du CREN de Nantes et moi-même, donc Aurélie Marlot. Je suis au laboratoire ACTE à Clermont-Ferrand. Et puis, donc, nous avons... Ben, ils sont partis, mais donc j'avais mes collègues, hein, correspondants Léa. Donc voilà, directeur d'une école. Il se trouve qu'on travaille à une échelle assez, on va du micro jusqu'au plus macro, hein, puisque on est en relation avec donc la DAZEN, et puis l'IEN, l'équipe de circonscription, les conseillers pédagogiques, et puis c'est un réseau, c'est une ZEP en fait, hein. REP+, maintenant. Donc, du coup, on est en relation effectivement avec, il y a 4 écoles, donc avec les directeurs d'école, avec les maîtres supplémentaires, avec les maîtres de la classe. Hein. Donc, du coup, on est vraiment... on a des acteurs diversifiés avec lesquels on travaille à différents niveaux. Donc voilà. Moi, ce que je voulais dire en tant que nouvelle dans ces Léas, c'est qu'au départ, moi, j'avais pas spécialement d'appétence ni d'appétit pour le Léa. Voilà. Je veux dire, j'étais pas spécialement enthousiaste ou... Mais en fait, il se trouve que le Léa a permis de concrétiser pour moi la rencontre de deux préoccupations. Parce qu'en fait, en tant que chercheur, ma première préoccupation, comme mes collègues, hein, c'est la diffusion des résultats ou bien le transfert, on peut appeler ça de manière différente, la transposition des résultats de la recherche à la formation et à la pratique. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'on s'y prend? Et donc, il y a pas mal les résultats les plus récents au niveau de la recherche, donc montrent que, effectivement, on peut jouer sur les pratiques directement des enseignants, on peut jouer sur leur représentation, leur conception, leur rapport au savoir, mais en fait, si on travaille sur l'un ou sur l'autre, c'est stérile, en fait, il se passe pas grand-chose. Et il s'avère que le Léa, c'est quand même un endroit, c'est ces lieux d'éducation associée où on peut travailler de concert à la fois donc les représentations, le rapport au savoir, le rapport à l'enseignement, les différentes représentations qu'ont les enseignants de la difficulté scolaire, du métier, de plein de choses. Donc on peut travailler effectivement ces représentations, mais en interaction très forte avec des pratiques, voilà, des choses pratico-pratiques. avec l'éclairage, effectivement, des chercheurs qui peuvent, de leur point de vue, amener certaines notions. Donc, il m'est apparu que l'ELEA, ça pouvait être tout à fait cet endroit où on pouvait peut-être penser à une évolution des pratiques professionnelles, mais des pratiques professionnelles des acteurs de terrain, mais aussi des chercheurs en tant que professionnels aussi, voilà. Bien que nous ayons des épistémologies pratiques extrêmement différentes les uns et les autres. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme on étudie la mise en œuvre d'un dispositif plus de maîtres que de classes, il nous apparaissait que effectivement c'était une manière particulièrement perspicace de mettre en place ce genre de recherche, de collaboration donc avec des praticiens sur un temps long, et de travailler avec eux à la construction d'indicateurs, en fait, de l'efficacité de ce dispositif, mais aussi, en fait, pour nous, c'est un observatoire majeur, ce dispositif plus de maîtres que de classes, de véritablement les conditions de l'aide ordinaire, de la gestion, de l'hétérogénéité. En fait, quelque part, on en vient, au travers d'un dispositif, à toucher le cœur du métier. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, pour en revenir, donc, évidemment, Léa et à ma première journée ici, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis en fait de faire le lien entre moi, je suis arrivée avec toutes mes questions qui ont à voir avec comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre en place une recherche collaborative, parce que ça ne se décrète pas, parce que qu'est-ce qu'on entend dans la collaboration? Est-ce qu'on co-élabore, qu'on co-construit la question? À partir de quoi? Est-ce qu'on co-construit, qu'on co-élabore des outils d'analyse avec les praticiens, d'analyse de la pratique et de quelle manière, chacun avec son épistémologie? Est-ce qu'on co-élabore des outils de diffusion après, effectivement, des résultats? Quel est le statut des résultats pour le chercheur, quel est le statut des résultats pour le praticien, qu'est-ce que chacun va pouvoir en faire. Donc je suis arrivée effectivement avec ces questions qui sont les vôtres aussi, hein, bien évidemment, et elles se sont enrichies aujourd'hui, elles se sont nourries d'une chose notamment, c'est le rapport à la ressource, c'est-à-dire que en fait, le fait d'avoir travaillé, justement d'avoir mixé ces ateliers, qu'on ait eu un atelier sur la production de ressources, un atelier sur les relations chercheurs praticien. En fait, ça m'a permis de voir qu'effectivement, des conditions de la collaboration, de ce qui est mis en place, dépend véritablement la qualité de la production et de l'appropriation des ressources par les enseignants. Que les choses sont vraiment extrêmement liées. Et que, voilà, pour moi, c'est un objet que l'ELEA, véritablement, ça permet d'ériger en objet de recherche pertinent et digne ces conditions de travail entre les chercheurs et les praticiens de terrain. Voilà. Voilà. Donc après, c'est ouvert. Et oui, ce que je suggérerais, puisque c'est une question, me semble-t-il, qu'on partage tous quand même, ces conditions de la collaboration, je ne sais pas de quelle manière il ne pourrait pas y avoir un espace sur le forum où on a commencé tout à l'heure à discuter comment est-ce qu'on s'y prenait chacun pour mettre en œuvre la collaboration, co-construire la question à partir des préoccupations, les objets frontières, tout ça. Finalement, un peu comme...
On va essayer de mettre ces notes qui ont été prises dans l'atelier dans le forum et d'inviter tout le monde à venir le nourrir, parce qu'on est loin les uns des autres. Et oui. Puis se dire dans une autre rencontre, on pourra repartir de là pour faire un travail plus poussé. On peut aussi imaginer des espèces de commissions à l'intérieur du réseau qui prennent en charge quelques personnes du réseau qui prennent en charge plus une question pour l'approfondir en interrogeant les autres membres du réseau, en travaillant en bibliographie, etc.
Oui.
Mais pour l'instant, c'est à construire. Nathalie ?
Donc, je suis Nathalie Malabre, je suis IA Hyper en histoire-géographie, je viens de Lille. Je suis arrivée à Lille, en fait, il y a 4 ans. Et je travaille avec Cyril Lara, ça c'est très important, c'est un IEN en lettres-histoire et qui travaille sur les lycées professionnels. Et donc, c'est un LEA qui concerne à la fois les collèges, les LGT et les lycées professionnels. Et c'est un LEA qui concerne une discipline, la géographie. Mais pas simplement l'enseignement de la géographie, même si dans cette action, nous avons aussi voulu renouveler les pratiques de l'enseignement de la géographie. C'est c'est une action qui vise à une éducation par la géographie. Et donc, qui est partie, en fait, d'une synthèse de toutes les remarques que me faisaient les enseignants et de tout ce que Cyril aussi pouvait observer sur le terrain, des problématiques territoriales des élèves de l'Académie de Lille. Donc, leur impossibilité à se projeter dans le futur, la faiblesse de leur mobilité, alors des problématiques territoriales qu'on retrouve ailleurs en France, hein, dans d'autres académies évidemment, mais qui c'est une académie qui est marquée par de fortes difficultés économiques et sociales, et puis un regard très négatif sur les territoires où vivent les élèves. Donc on est parti de là et puis tout en se disant que bon, on avait des professeurs d'histoire géographie qui étaient majoritairement des historiens, qui enseignaient la géographie un peu moins que l'histoire, et qui n'avaient pas eu une véritable formation initiale suffisante en géographie. Donc pour plutôt que d'être dans la préconisation et de faire descendre des idées comme ça, on a réuni des enseignants, donc, et on leur a proposé d'enseigner un objet qu'ils n'enseignaient pas, la prospective territoriale. Donc, et on a commencé à bâtir des relations avec plusieurs partenaires, notamment le commissariat général. Notre premier partenaire, c'est le commissariat général à l'égalité des territoires, donc qui a un service de prospective dans lequel on trouve des chercheurs, puis des collectivités territoriales, notamment la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on travaille aussi avec des didacticiennes de la géographie de l'ESPE. Et ce que j'ai entendu au cours de la matinée rejoint évidemment nos préoccupations, notamment la façon de faire travailler en synergie différents partenaires qui sont dans l'éducation nationale ou hors éducation nationale. J'en ai parlé pendant l'atelier de l'après-midi, difficulté à faire travailler praticiens et chercheurs, puisque les enseignants n'étaient pas du tout habitués à avoir des relations avec les didacticiens de l'ancienne UFM et de l'ESPE aujourd'hui. Donc j'ai entendu aussi dans des ateliers sur les relations avec les partenaires institutionnels, éducation nationale ou hors éducation nationale, les difficultés, les blocages. J'ai entendu parler des chefs d'établissement et des IPR. Donc, je suis IPR, mais moi-même, je me suis heurtée à des obstacles parce qu'au sein de l'éducation nationale et dans des services du rectorat, c'est une machine lourde qu'il faut convaincre tout le monde. Et que même si on impulse en tant qu'IPR, il faut vraiment, et que les enseignants sont tous volontaires, pour arriver à toucher les services du rectorat et à mettre en synergie les différents partenaires pour faire signer des conventions, c'est extrêmement compliqué. Ce que je voulais dire aussi, parce que toute la matinée et l'après-midi, finalement, ce qui est sous-jacent à tout ce qui a été dit, c'est la problématique de la diffusion. Quand on est dans une innovation, et certains l'ont dit, vous l'avez dit pour le Léa Garcia Lorca, on travaille sur un établissement. Nous, dans notre Léa, on a 40 enseignants qui viennent d'établissements différents. Plusieurs collèges, plusieurs LGT, plusieurs LP, et de suite on s'est posé la problématique, cette problématique de diffusion au reste de l'académie. Et évidemment, la problématique de la formation des enseignants est majeure. Donc la question de la diffusion d'une innovation mériterait peut-être qu'on y réfléchisse à un moment donné tous ensemble. Bon, on a tous un peu parfois regretté que les échanges dans les ateliers soient coupés, puisque une fois qu'on s'était présenté, qu'on avait commencé à discuter et à échanger, on devait passer à une autre thématique. C'est pour cela que certains n'ont pas quitté leur atelier, j'ai remarqué, et sont restés dans le même atelier tout l'après-midi. Et finalement, c'est vrai qu'une journée, c'est trop court pour toucher à des problématiques aussi lourdes. Donc, des ateliers un peu plus longs. Mais en tout cas, je pense que la problématique de la diffusion...
La problématique à creuser. Merci beaucoup.
Donc, moi, je suis Samia Aknouche, correspondante Léa pour l'établissement, donc le collège Elsa Triolet à Vénissieux, donc aux Minguettes. Donc, nous entrons cette année donc dans le réseau des Léas. Nous travaillons sur la professionnalité, le métier d'enseignant, et nous sommes en cela très proches de la méthodologie de Garcia Lorca dans cette manière de procéder, d'échanger sur nos pratiques à partir de films, à partir de la vidéo. Nous allons essayer d'emblée de travailler avec les écoles, dans le cadre de la liaison école-collège, main dans la main avec les enseignants du primaire. Donc ça va pas, il va falloir aussi, c'est ce qu'on est en train de faire, essayer de convaincre l'IEN. Donc moi j'ai apprécié ce matin la présentation des différents Léa. Bien que j'ai pu trouver cette présentation un petit peu parfois dense, un peu longue pour un œil pas du tout expert comme le mien. Donc certaines terminologies aisément employées a été un petit peu obscure pour moi. Donc j'ai essayé de pas décrocher en prenant bien mes notes. C'était pas toujours très abordable, je dirais, parce que très riche aussi. Donc l'après-midi, j'ai apprécié de pouvoir vraiment dialoguer, échanger librement avec des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de parler aussi franchement, donc comme les chefs d'établissement. Donc ça a permis ça m'a permis de me rassurer sur certains points. Donc dans notre établissement, on a le personnel de direction qui a entièrement changé, donc c'est pas forcément évident comme ça a déjà été dit de faire accepter un projet qui est un petit peu étranger. Donc ça a été l'après-midi a été rassurante sur ce point. Voilà.
Professeur de l'université et
initiateur
du projet d'ELEA.
Bon, un des initiateurs, parce que tous les projets sont collectifs, et ça aurait été étonnant que le projet d'ELEA soit un projet individuel.
Oui, mais bon, quand même.
Quelques remarques générales après 3-4 ans d'expérience d'ELEA. Ouais, il me semble qu'il y a quatre grandes questions qui sont posées. La première, c'est quel rapport entre l'ELEA et l'établissement ? Et j'étais très intéressé par votre présentation de votre collège, la présentation de Lille aussi, parce que là, on a vraiment l'impression d'un Léa qui fait corps avec le projet d'établissement. On imagine que quand on rentre dans votre collège, et si on demande le Léa, qu'est-ce que c'est, tous les enseignants sont au courant, qu'ils participent ou non, puisque certains d'entre eux, peut-être, resteront un peu à l'écart, mais c'est un projet de l'établissement. Et ça, il me semble que c'est un enjeu majeur pour les pilotes des établissements, pour la recherche et pour les enseignants. À quel point une question est ressentie comme suffisamment critique pour qu'elle soit saisie par tous ses partenaires et la faire avancer ensemble. Alors, il y a toute une diversité. Le travail que fait Émilie montre bien que les situations sont très diverses. Hein, de Léa qui traite une question propre à un petit groupe d'enseignants ou à une discipline. Mais si on veut que le réseau se développe, il me semble qu'il faut que les questions traitées deviennent des questions de l'établissement, des questions majeures. Et donc aussi que les parents d'élèves sachent ce qui se passe, que sur le site de l'établissement, on voit qu'il y a un Léa, etc. Une deuxième question qui est posée, et qui est aussi un peu une rançon du succès des Léas, c'est que dans beaucoup de Léas, il y a un ensemble de projets qui s'y trouvent. Par exemple, il y a des Léas avec des projets européens, des Léas avec des projets ANR. Et donc, il y a une articulation à penser qui n'est pas simple. On est au tout début de cela. Bon, je vois dans le cadre de l'ANR-EVA, où beaucoup de Léas sont, ou plusieurs des Léas sont conçus plutôt comme des lieux où on regarde les enseignants travailler, où il n'y a pas de vraie dynamique de développement professionnel. Bon, c'est à penser. À penser, mais ça peut être aussi une façon de penser le futur des Léas. C'est-à-dire quand il y a plusieurs projets, quand par exemple le développement d'un Léa rencontre l'intérêt d'une région, d'une collectivité locale, ça veut dire que quand il n'y a plus d'appartenance formelle au réseau des Léas, il y a une dynamique qui se poursuit. Alors, la troisième question qu'on ne se posait pas au début des Léas, évidemment, c'est y a-t-il une vie après les Léas ? C'est-à-dire s'il y a un petit réseau de Léas, 25 Léas, 30 Léas, à la fin, il y a une fin, donc des Léas sortent du réseau. Alors moi, il me semble que la bonne façon de voir le problème serait de bien réaliser que dans tous les établissements, il y a du travail collectif. Dans tous les établissements, il y a des questions. Et dans tous les établissements, le pilotage, les enseignants, etc., sont intéressés parce que c'est leur raison d'être et leur possibilité de vivre, de résoudre ces questions. Simplement, le fait de rentrer dans un Léa, c'est une sorte d'accélérateur. Je vois ça comme un caillou qu'on lance dans l'eau. Bon, l'image est mauvaise, là, je n'en trouve pas d'autres sur le coup, mais ça va faire des petites vagues, ça va s'étendre en même temps, ça va se diffuser. Et il me semble que un des critères de succès d'un Léa, c'est qu'autour du Léa, eh bien, il y a un réseau d'écoles ou d'établissements qui se posent la même question. Et d'autres synergies à ce moment-là qui naissent, parce qu'à un moment donné, il y a un effort collectif qui a été mis dans des moyens donnés, un regard porté qui a encouragé des solidarités nouvelles et de nouvelles méthodes pour traiter les questions. Bon, et donc après un Léa, ben c'est peut-être de nouveaux réseaux qui naissent, ou autour d'un établissement Léa, d'autres Léa partenaires. Un Léa qui porte une thématique, au bout de 3 ans, c'est un autre établissement qui va porter cette thématique, mais l'ancêtre est toujours là, dans l'orbite du Léa. Enfin, il y a d'autres formes à trouver qui ne font pas qu'on entre dans un Léa puis on en ressort. En fait, c'est un réseau qui se développe, qui se reproduit sous de multiples formes. Bon, et puis, dernière question, y a-t-il une mort des ressources aussi, parce que quand on parle de ressources vivantes, on en parlait ce matin, c'est quoi une ressource finalement? C'est quoi une ressource vivante? Est-ce qu'on peut penser qu'un Léa crée des ressources? À la fin du Léa, bah, les ressources perdent leur intérêt. Par exemple, ça, c'est des questions importantes à se poser dès le début du Léa, pour que soit inscrite déjà dans une nouvelle ressource qui se crée, sa possibilité d'évolution, d'appropriation par d'autres, avec des systèmes d'auteurs, de contributeurs. On l'a vu ça dans les ressources performance, peut-être aujourd'hui dans les ressources magistères, ou des parcours qui sont créés, mais qui sont destinés à s'enrichir. Puis peut-être un parcours en créera 2 autres. Vous voyez, donc penser les moyens de vie, de ressources. On le voit là, par exemple, je fais une petite parenthèse, pour un MOOC sur l'enseignement des maths qui va se créer. Et un MOOC, c'est 4 semaines, donc c'est beaucoup plus réduit que la vie d'un Léa. Mais on se pose la question dès le début pour que les ressources qui vont être développées puissent être ensuite accueillies, revivifiées, trouver une nouvelle vie dans le réseau des IRM, dans le réseau des SP, etc. Donc à un moment donné, il y a un coup d'accélérateur, et puis hop, d'autres structures, d'autres écosystèmes qui vont accueillir les ressources créées. Pour ça, à mon avis, c'est à penser dès le départ. On l'a vu dans la présentation que j'ai suivie plus particulièrement, parce que c'était l'atelier cet après-midi que j'ai introduit. Qu'est-ce qu'on met dans une mallette de ressources? Et qu'est-ce qu'on met pour qu'elle puisse être appropriée, qu'elle continue sa vie au-delà de l'initiateur au départ? Bon, puis je terminerai par 2 défis. Un défi pour l'institution et un défi pour la recherche. Le défi pour l'institution, il me semble, alors je vois délégué du DRDIE qui est là, le ministère qui nous soutient, il me semble que là, il y a un défi pour l'institution qui doit faire beaucoup plus, officiellement. J'étais frappé de voir, puisque par ailleurs je suis responsable de la Commission française sur l'enseignement des maths, on a des rencontres aujourd'hui, c'est la première fois historique avec le cabinet, pour voir comment on peut soutenir l'enseignement des maths. Donc on rencontre des gens qui sont vraiment intéressés à ce que l'enseignement des maths fonctionne. Et quand on leur parle des Léa, des groupes IREM, ils disent mais on ne comprend pas pourquoi, par exemple les groupes IREM premier degré, ou les Léa, ou les profs du premier degré, l'appartenance de profs à ces Léa ne se traduit pas par des décharges automatiques. Ou que pendant 3 ans, comme il y a un contrat Léa sur 3 ans, disons, que les professeurs d'école qui sont dans ces Léa voient automatiquement, je crois que c'est 18 heures ou 18 jours, je ne sais plus, de formation, que soit conçu comme une sorte de formation. Et parce qu'on forme aussi des formateurs. Et que les Léa soient reconnus dans leur dimension de lieu de formation totale. Et que ça soit clair, pour qu'on n'ait pas à négocier, parce que c'est très pénible, vous le savez, enfin. Vous qui êtes hyper, vous avez parlé, les négociations, pour vous, c'est compliqué, mais pour imaginer, pour les profs, c'est bon. Donc, il y a un défi pour l'institution, elle doit clarifier ce que veut dire exactement son soutien en Léa, au niveau du ministère, au niveau des rectorats, au niveau des DSDEN. Puis un défi pour la recherche aussi, je crois que là, au bout de 3-4 ans, on doit être capable, les différentes équipes de recherche qui participent au Léa, pourquoi ça a été une expérience critique, et pourquoi, pour des équipes de recherche en éducation, la participation à Léa, c'est quelque chose qui est vital. Pourquoi? Pour moi, la question est posée, je n'ai pas de réponse. Mais là aussi, en faisant un pas de côté, on a engagé une collaboration avec la Chine. Et là-bas, bon, il y a des réseaux d'établissements associés à des universités comme les CNU qui s'occupent de formation, de curriculum. Mais la recherche est complètement intégrée dans l'établissement. Et pour des chercheurs en éducation, le fait de participer à des interactions avec des enseignants sur la longue durée dans des établissements assignés, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Bon. Et pour la recherche en éducation en France, je crois que là aussi il y a un enjeu. On est au début, on sait bien qu'il y a 3 ans, on partait un peu craintif. Là, maintenant, il y a une expérience accumulée. Il me semble qu'on devrait voir, au niveau des publications, des grandes manifestations scientifiques de la recherche en France et au-delà, à travers les collaborations avec le Canada ou avec d'autres, que la question des Léa, ils peuvent changer de nom. Enfin, au Canada, c'est d'autres formes qui existent, mais c'est semblable. C'est ces formes qui associent, dans la durée, chercheurs, enseignants et pilotage d'établissement, elles apparaissent comme au centre du débat sur le développement des recherches et des ressources en éducation. Voilà.
Est-ce quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Moi, j'aurais peut-être une suggestion par rapport aux deux remarques qui ont été faites sur la densité des interventions du matin, le fait qu'on n'a pas eu le temps dans les ateliers l'après-midi. Moi, ce matin, j'aurais bien aimé qu'il y ait alors, éventuellement deux interventions un peu denses comme ça et des tables rondes derrière qui prennent un objet où plusieurs Léas sont ensemble et discutent ça. Ça pourrait être une forme d'amorce aux ateliers de l'après-midi où il y a déjà des questions débattues et on n'arrive pas dans l'atelier de l'après-midi avec déjà la pendule qu'on guette. Quoi.
Voilà. La forme table ronde. D'autres propositions ? Émilie ?
J'essaie de me rappeler. Alors, il y a une autre formule aussi qui est possible, je la dis comme ça, vous pouvez réagir si vous voulez, qui s'appelle le peer-to-peer, où en fait, au début de la journée, il y a un tableau, et puis chacun met sur quel sujet il veut discuter, et puis des groupes se constituent de manière... autonome et spontané, et puis donc à un moment donné il y a une réunion avec les personnes qui sont intéressées, donc à ce moment là chaque Léa peut venir dire bah, moi je vais discuter, c'est ça mon problème, je vais discuter dessus, et on aura peut-être d'autres qui seront intéressés, et ça marche très bien. Par exemple c'est un réseau d'opéra, d'éducation à l'opéra qu'il utilise dans ses rencontres annuelles, et ça marche très bien. Voilà, ça
marche. Merci. Proposition, plein d'aventures. Bon, j'ai encore une diapo. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à tous. On se retrouve le 13 mai. J'espère uniquement côté IFE, comme ça on passera moins de temps aussi à courir dans les couloirs ici. Mais bon.
Véronique. Oui, une question juste pour être sûre, le forum pour continuer les débats est bien sur le site des Léa.
Le forum est dans l'espace collaboratif des Léa, et on va vous inviter, n'est-ce pas, Aristide ?
Oui, on va le lancer, on va synthétiser ce qui s'est dit aujourd'hui, on est une base, et on va vous inviter à ce moment-là à poursuivre les
choses.
C'est sur le site, c'est dans l'espace collaboratif, pour que ça reste à l'intérieur du réseau.